18h05 précisément. Évidemment, on est là jusqu'à l'arrivée de l'avant-match du Canadien face aux Canucks de Vancouver. C'est à compter de 19h. Marc-Antoine Godin du site athletic.com est avec nous. Salut Marc-Antoine.
Bonsoir Jérémy.
Comment vas-tu?
Ça va bien, bonne année.
Bien, bonne année à toi. Bonne année 2019.
Si.
Toujours passionné par ton travail.
Toujours.
Parce que c'est oui. Ce qu'on te souhaite, j'imagine, quand on te voit à la bonne année.
Oui, absolument.
Succès dans tes études.
Oui, oui, mais les études sont finies depuis longtemps.
Oui, hein?
Oui. Maintenant, regarde, t'es pas le seul à grisonner.
non, en effet. Marc-Antoine, évidemment, on arrive à un point crucial dans la saison chez les Canadiens de Montréal. Match 41, c'est la mi-saison.
Oui.
Qu'est-ce qu'on peut dresser comme bilan de cette première moitié de saison chez les Canadiens de Montréal?
Ben écoute, les deux mots qui me viennent immédiatement à l'esprit, c'est agréable surprise. Mm-hmm. Il n'y a aucun doute là-dessus. Personne s'attendait à ce que le Canadien se retrouve dans cette situation-là, qu'il soit non seulement encore dans la course, qu'il se soit arrangé pour rester dans la course, mais qui demeure, qui soit encore en position pour participer aux séries à l'heure où on se parle. C'est surtout la manière dont l'équipe a réussi à garder la tête hors de l'eau en l'absence de Shea Weber, qui était, à mon avis, la plus grosse tâche. Quand on regarde la façon dont le Canadien s'est débrouillé en défensive la saison dernière, c'est un fiasco. Mm-hmm. Et puis, donc, il partait de loin. Toute l'équipe partait de loin. Étant donné que le noyau n'a pas tellement changé par rapport à l'année dernière, de pouvoir dire, bon, ben là, avec sensiblement le même groupe, on va devoir se débrouiller 20, 30, 40 matchs, peut-être, qui sait, sans Shea Weber, ça m'apparaissait une tâche titanesque. Et c'est tout à l'honneur, non seulement du groupe de joueurs, mais également de Claude Julien et de ses adjoints, d'avoir trouvé une façon de faire et d'être allé chercher chez chacun des joueurs individuellement un effort supplémentaire, puis d'être allé soutirer vraiment toutes les... davantage de capacité chez chacun d'eux, parce que franchement, même avant que l'équipe compte sur le retour de Weber, tu regardes Petrie. Petrie connaissait une très, très bonne saison. Jordy Benn a été capable de se redresser.
Il joue du meilleur hockey, honnêtement.
Absolument. Oui, oui. Puis, tu sais, il y a eu des matchs difficiles en début de saison. On ne se le cachera pas. Mais de manière générale, si tu regardes l'année dernière, c'était pratiquement pas un défenseur régulier de la Ligue nationale. Tandis mm-hmm. que là, on peut dire, dans un rôle, cinquième, sixième défenseur, il accomplit tout à fait adéquatement son boulot. Brett Kulak était une bonne surprise. Fait que, tu sais, il y a plusieurs facteurs qui se sont mêlés à tout ça. Et là, Weber revient, Carey Price retrouve son niveau de jeu et soudainement, ben, tu as une équipe qui est en bonne position.
À travers tout ça, je pense, et tu me diras ce que tu en penses, mais je pense qu'il faut donner crédit à Marc Bergevin. Ça, c'était l'homme critiqué, là. C'était, oui. Il avait une cible dans le dos cet été. On parlait du repêchage le plus important depuis son arrivée avec le Canadien de Montréal. Et je dirais même, on s'est moqué de lui un peu lorsqu'il a parlé d'attitude. On l'avait varlopé un peu lorsqu'il avait dit qu'il avait une meilleure défensive. Mais là, il a parlé d'attitude. On a un problème d'attitude. Je pense qu'il avait raison, finalement.
Absolument. Oui, surtout que le problème d'attitude ne se limitait pas à deux joueurs, mais c'était clair, net et précis que Max Pacioretty et Alex Galchenyuk faisaient partie de ce problème d'attitude-là. Et à tout seigneur, tout honneur, il l'a réglé. Et il l'a réglé d'une manière qui, là où je pense le plus de mérite lui revient, c'est que autant dans le cas de Pacioretty que de Galchenyuk, il n'était pas en position de force au moment de négocier. Galchenyuk, c'est un dossier qui a été sur la place publique durant tout l'été. Il était un petit peu dans un coin. Il ne négociait pas en position où il pouvait aller vraiment soutirer le maximum pour les services de Pacioretty, comparativement, par exemple, à s'il avait décidé de l'échanger sans que personne ne sache qu'il était véritablement disponible ou quelles étaient ses intentions. Dans le cas de Galchenyuk, il était sur le marché depuis un an et demi, deux ans. Je pense que toutes les équipes étaient au courant que Bergevin lui-même n'était pas satisfait de son joueur. Alors, il n'était pas dans une position où est-ce qu'il pouvait vraiment soutirer le maximum. Et pourtant, il a sorti deux lapins de son chapeau. Et ça honnêtement, je pèse mes mots, mais ça m'a impressionné. Parce que jusqu'à maintenant, l'échange de Pacioretty, je crois qu'il le gagne. J'ai hâte de voir comment Nick Suzuki va se développer. Mais écoute, Thomas Tatar rend de fiers services aux Canadiens et l'échange de Galchenyuk.
Non, mais rajoute avec ça un choix de deuxième ronde.
Oui, exact. On a hâte de voir.
Thomas Tatar, t'as Nick Suzuki, puis un choix de deuxième ronde.
Oui,
ça, c'est immense, là.
Oui, pour un joueur que c'était clair, net et précis que le Canadien n'allait pas lui donner de nouveaux contrats. Et tu regardes aujourd'hui ce que les Golden Knights ont fait signer comme contrat à Pacioretty. Je suis pas certain, moi, que dans 2-3 ans, on va se dire encore, ah, tiens, c'est un très bon contrat. Mm-hmm. Alors, il a réussi à se départir de son joueur, de son ancien capitaine, au bon moment, et puis d'en soutirer vraiment un maximum en termes de retour des actifs. Et comme je disais, ben, Galchenyuk contre Domi, je pense qu'il n'y a pas photo. Là, le Canadien, jusqu'à maintenant, est grand, grand gagnant. Mais c'est drôle parce que Les deux équipes se sont échangées des gars qui ne pensaient pas être capables de jouer au centre. Les deux équipes cherchaient un joueur de centre. Mm-hmm. Et là, ben, le Canadien a gratté un petit peu, puis pas trop loin en dessous du billet de l'auto, ben, ils ont réalisé qu'il avait bel et bien un joueur de centre sous la main, puis Domi rend de fiers services à l'équipe.
Parce qu'on a parlé de caractère, évidemment, tu as ciblé deux joueurs qui ont été échangés. On parle de Pacioretty, Galchenyuk.
Oui.
Mais à voir le nombre de fois que le Canadien est revenu de l'arrière cette saison, ça, c'était un problème l'an passé. Souviens-toi, aussitôt que l'équipe adverse marquait un but, il y avait un deuxième but qui arrivait rapidement et le match était complètement terminé. Oui. Cette année, à plusieurs reprises, on les a vus revenir de l'arrière. Et ça, pour moi, c'est une marque de détermination et c'est une marque de caractère. C'est ce qu'on peut voir.
Oui, absolument. Puis je pense que quand l'équipe, quand elle tire de l'arrière après deux périodes, a déjà une meilleure fiche à ce stade-ci de la saison. Elle a plus de victoires qu'elle en a eu durant toute la saison dernière et c'est vraiment l'une des meilleures fiches de la Ligue. Écoute, quand l'adversaire mène après deux périodes, le Canadien a été en mesure de gagner 6 matchs sur les 16 où c'est arrivé. 6 matchs sur 16, ça paraît pas beaucoup, c'est une fiche déficitaire, mais t'sais, la Ligue nationale, c'est une ligue où encore récemment, on disait « Ah ben là, quand tu perds par un but, quand tu donnes le premier but, quand tu perds après deux périodes, c'est fini, on ferme les livres. » Ben, c'est plus ça la Ligue nationale, mais le Canadien en est une grande preuve parce que d'être capable de revenir aussi souvent, c'est impressionnant.
On s'entretient avec Marc-Antoine Godin du site athletic.com. Marc-Antoine, si tu avais un bilan dressé de la première portion de saison, on est encore au match 41, première portion de saison pour Carey Price, qu'est-ce que tu dresses comme bilan?
Ben, écoute, ça m'apparaît être jusqu'à maintenant une saison en trois temps. Je te dirais, puis ça ressemble un peu à la division par mois. C'est-à-dire qu'au mois d'octobre, on a vu un Carey Price qui était revenu sous de meilleures dispositions, qui était meilleur que l'année dernière, qui surfait un petit peu sur les succès du reste de l'équipe. L'équipe n'avait pas besoin nécessairement qu'il soit à son meilleur pour gagner. Et lui, ça a bien été. Au mois de novembre, il a clairement frappé un mur. Il s'est remis à être un gardien assez inquiétant et qui nous rappelait vraiment celui de l'année dernière. Et puis là, il y a eu cette fameuse pause-là là, au milieu du mois de novembre où il a pris un certain recul. L'équipe lui a donné un recul. Et c'est drôle parce que tout récemment, cette semaine, Carey Price disait « Oui, j'ai eu un bobo. Le malaise qui m'ennuie, je l'ai depuis 7 semaines. » Alors, si on recule 7 semaines en arrière, ça nous amène directement à la mi-novembre, au moment où il a pris cette pause-là. Donc, il avait besoin d'un répit psychologique, besoin d'un répit probablement physique également. Et quand il est revenu, ça coïncidait avec le retour de Shea Weber. Et là, on a vraiment un Carey Price qui est à peu près au sommet de sa forme. Et ça, le Canadien a besoin, non seulement... le Canadien est capable de gagner des matchs sans lui, mais ils ont besoin de savoir que leur cheval, leur gros gars, le gars qui paye un gros salaire pour 8 ans, ils ont besoin de savoir qu'il va être encore là au moment où ils en ont besoin. Et puis, son rendement du dernier mois a été tel que finalement, aux yeux de la Ligue nationale, ben, c'est pas une anomalie de l'inviter au match des étoiles. Personnellement, je pense que sa renommée, sa réputation a aidé là-dedans. Mais
la tenue du Canadien aussi, je pense. Le fait que le Canadien, les gens avaient tellement pas d'espérance de les voir compétitionner à travers la Ligue nationale, le fait qu'on soit toujours, qu'on se tienne parmi les 8 équipes qui ont accès au match éliminatoire, je pense que ça aussi, ça peut jouer en faveur de Carey Price. Ouais. Maintenant, chez Weber. Ouais. Moi, personnellement, chez Weber, je m'attendais à quelque chose de dramatique à son retour. Parce que chez Weber, on le sait, c'est un gros bonhomme.
Ouais.
C'est pas quelqu'un qui bouge rapidement les pieds. Ça a été difficile contre le Lightning de Tampa Bay durant le temps des fêtes. Là. Mais vraiment, il joue du bon hockey. On le voit chez Weber être le grand leader en défensive. Tu vas me dire, OK, les autres, c'est pas... c'est un comité qui est là, qui l'accompagne. Là. Mais chez Weber, il joue du bon hockey.
Ben, écoute, il joue comme le défenseur numéro un de qu'il doit être. Et c'est impressionnant de le voir revenir. C'est ça, tu dis, après un an d'absence, là, c'est tellement long. Tu regardes un joueur plus jeune comme William Nylander, dis-je.
Ouais.
Qui, lui... à Toronto, prend du temps à se mettre en marche. Ils sont revenus à peu près dans les mêmes eaux, à peu près au même moment. Il y a quelques jours de différence. Et Nylander, qui est plus jeune, plus fringant, qui en principe devrait être au sommet de sa forme, ça revient pas tout de suite. Mais chez Weber, c'est drôle parce que dans les semaines qui ont précédé, chez Athletic, on avait publié un texte justement avec les coéquipiers du Canadien qui disaient jusqu'à quel point êtes-vous inquiet de le voir retrouver rapidement ou lentement son niveau de jeu habituel. Parce que les exemples, tu regardes Andrew Shaw qui a mis du temps à revenir. Puis la liste de joueurs qui prennent du temps à revenir, puis que c'est souvent des moteurs diesel, c'est long à repartir. Puis bon, avant de trouver son rythme de croisière, lui, il est l'exception qui confirme la règle. Et tout le monde, les joueurs disaient, ah non, ben non, c'est Shea. C'est pas n'importe qui, c'est Shea Weber. Mm. C'est correct, vous inquiétez pour rien. Oui, mais là, on s'inquiète pour rien. C'est quand même, c'est pas banal, c'est un an. Et ce qu'on voit, ben, c'est effectivement un joueur qui a à peu près repris là où il l'avait laissé. Écoute, dans les 28-29 matchs qu'on avait vus de sa part la saison dernière, il a été blessé dès le premier, donc je pense que c'est pas le bon barème. On retrouve le gars qui était il y a 2 ans quand il est arrivé à Montréal, donc c'est un joueur clé pour le Canadien. Puis on parlait brièvement mentionné le match des Étoiles. Lui, c'en est un autre, même s'il n'a joué que 16 matchs, dans mon livre à moi, comme dirait l'autre.
Oui.
Le fait de revenir après un an d'absence et d'afficher un tel rendement, un tel niveau durant les 16 matchs qu'il a joué, à mon avis, c'est le signe d'un joueur étoile.
Oui, c'est exceptionnel. Bon, maintenant, tu sais que l'ensemble des experts, on s'est carrément gouré en début de saison, voyant le Canadien dans les bas-fonds de la Ligue nationale de hockey. Alors, Marc-Antoine Godin, je t'amène une boule de cristal. Mm-hmm. Et dis-moi ce que tu vois pour la deuxième moitié de saison chez le Canadien de Montréal.
Écoute, je pense que le Canadien... J'ai envie de continuer d'y croire puis de mettre cette équipe-là en séries éliminatoires. Je vois 3 équipes principalement qui vont être du sable dans l'engrenage pour le Canadien. Il va y avoir les Sabres de Buffalo, mm-hmm. il va y avoir les Islanders de New York et puis les Panthers de la Floride. Les Sabres de Buffalo ont perdu de la vitesse. C'est sûr qu'ils avaient ramassé beaucoup de points en marquant énormément de buts en début de saison. Mais là, il y a de l'eau dans le gaz de leur côté. Je pense que c'est un adversaire qui est vulnérable pour le et qui pourrait faire servir la cause du Canadien, surtout qu'évidemment, c'est la même division. Les Islanders, c'est l'autre surprise dans l'Association Ouest. C'est une belle histoire de les voir avoir... Bon, ils ont changé de directeur général, changé d'entraîneur-chef. Ils ont perdu leur capitaine, leur joueur de concession. Ils ont réussi à eux autres aussi à garder la tête hors de l'eau, même si John Tavares n'est plus là. C'est une question de fierté pour eux autres et c'est impressionnant de les voir.
Félicitations à Barrett Trotz, d'ailleurs, oui. qui doit faire un boulot incroyable. Si on voit les Islanders être là, mais moi, je pense que tout dépend de Robin Lehner. Si Lehner casse, ça peut être difficile pour les Islanders de New York. S'il reste, s'il est capable de performer, là, ouais. On est capable de maintenir la
cadence. Absolument. Ils ont dosé son utilisation. Puis Lehner a traversé des problèmes personnels épouvantables au courant des dernières années, des problèmes d'abus de substances, de sérieuses dépressions. Les gens s'en doutent pas parce que bon, il y avait un masque sur la tête. Puis, mais écoute, il n'était pas en état de garder les buts. Il le faisait quand même. Il a remis de l'ordre dans sa vie. Puis cette année, c'est probablement la première fois depuis très longtemps, depuis que les Sénateurs ont vu quelque chose en lui il y a plusieurs années, qu'on a le vrai Robin Lehner. Donc, je lui souhaite tout le meilleur au monde. Pour ce qui est des Panthers de la Floride, je les redoute parce que c'est traditionnellement une équipe qui est très forte en deuxième moitié de saison. Ils ont pris du retard.
Mais l'écart est quand même grand. Là. C'est 7 points d'écart du côté des Panthers.
Absolument. Il y a 7 points d'écart, mais je me méfie parce que j'ai l'impression qu'à chaque année, ils ont une espèce de poussée. Souvent, ils manquent de souffle à la fin, sauf qu'on ne peut pas les compter pour battus. Encore là, c'est une équipe dans la division Atlantique, donc il faut se méfier.
En terminant, écoute, tu nous as sorti un cliché tantôt dans mon livre à moi. Ouais. Et je vais t'en sortir un pour terminer. Marc-Antoine Godin, du site theathletic.com. Canadien, fais-tu les séries?
Ben, écoute, ils vont être...
Non, réponds. Est-ce que les Canadiens vont faire les séries, oui ou non?
Je vais te répondre comme dans les années 50, dans le temps du Rocket.
Vas-y.
Ils vont faire le détail.
Ils vont faire le détail! C'est officiel. Hey Marc-Antoine, c'était un plaisir. Je te remercie beaucoup d'avoir pris du temps pour nous. Je te souhaite encore une fois une très bonne année 2019.
Merci beaucoup.
Merci Marc-Antoine Godin du site athletic.com. On s'arrête quelques instants. Retour, Stéphane Leroux sera avec nous. On va parler du championnat mondial de hockey junior, défaite du Canada hier. On va parler un peu de ce qui s'est passé dans le dossier. Maxime Comtois. Vous écoutez les amateurs de sport sur l'ensemble du réseau Cogeco.